maintenant.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama, émission hebdomadaire de cinéma sur Divergence FM. Nous sommes le mercredi 12 mai et Martin est autour de la table du studio de Divergence. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Encore une nouvelle fois, nous serons un duo pour présenter cette émission. Alors, au sommaire aujourd'hui, quelques inconnus quand même. Hein.
Oui, voilà des petites surprises. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir interviewer Jean Mack, donc co-réalisateur de Eight Wonderland, qui sort aujourd'hui. On avait organisé ça, mais il a des petits problèmes à Paris, puisque le film sort aujourd'hui. Il y a des problèmes de copie. Donc on verra en cours d'émission.
C'est lui qui va faire la copie lui-même.
Voilà,
non,
il va courir quelque Gaumont, part pour essayer de trouver une copie qui traîne. Donc voilà, au cours de l'émission, je réessaierai de le contacter. Mais bon, ça, c'est pas sûr. Ce qui est sûr, par contre, c'est que je vous parlerai un petit peu de Amonstock. Donc Amonstock est le premier film de Sophie Barthe qui est sorti la semaine dernière et que je suis allé voir.
Alors moi j'ai prévu des petites choses pour un film qui sortira la semaine prochaine seulement, mais il y avait une avant-première la semaine dernière, c'était jeudi. C'est Les Secrets, un film franco-tunisien de Raja Amari. Alors donc il y a eu une petite interview et j'ai fait un tout petit montage, il y en aura un plus conséquent la semaine prochaine, mais là j'ai voulu l'interroger un peu sur son rôle en tant que réalisatrice venant de Tunisie, faisant son film en Tunisie. Est-ce que ça a une incidence sur les images qu'elle propose, notamment de nudité, puisqu'il les questions de la découverte du plaisir mais du désir et de l'émancipation vers l'âge adulte d'une jeune fille, et il y a quelques scènes de nudité. Donc voilà, on a eu une petite conversation avec elle. On écoutera un petit extrait de la bande annonce d'une interview qu'a donné Jean-Luc Godard, qui va sortir son long métrage la semaine prochaine en plein Cannes, film socialisme. Il a donné une interview de 2 heures au site Mediapart, et je vous donnerai un avant-goût de ce dont il est question dans cette interview. Et puis on va commencer avec Gaspard Noé, le tout nouveau long métrage, 3e de sa longue carrière malgré tout, parce qu'il a commencé à faire des films, il avait une vingtaine d'années. Et pour se mettre un peu dans le bain, on va écouter une chanson qui intervient régulièrement dans ce film Entered Void. Voilà, et bien si l'ambiance du film Enter the Void se résumait à ce que l'on vient d'entendre, il serait bien tranquille, mais donc les apparences sont trompeuses. En tout cas, c'est fait, j'ai vu le 3e long métrage de Gaspard Noé, et comme les précédents, ce fut une découverte. Alors j'ai parlé la semaine dernière de sa filmographie, je n'ai peut-être pas suffisamment mis en avant la différence entre son premier long métrage, Seul contre tous, qui était une plongée dans une pensée d'extrême droite, et son 2e long métrage, Irréversible, qui nous plongeait, lui, dans la morale de la vengeance à rebours. Alors deux films de forme singulière, même si Gaspard Gaspard Noé, conserve une marque de fabrique, soit dans l'image, le trajet de la caméra, ou le son, et dans ses sujets, toujours la pensée et la bestialité qui s'entrechoquent. Alors, pour Enter the Void, c'est encore un film radical, mais avec une esthétique bien différente de ses précédents longs métrages. Alors, on garde la caméra virevoltante, aperçue dans Irréversible, mais il plaque sur le décor une couche d'effets spéciaux visuels, une esthétique qu'avaient déjà exploité les frères Wachowski pour Speed Racer, un monde ni tout à fait vrai ni tout à fait faux, mais blindé de pubs multicolores. Alors précisons que nous sommes à Tokyo, un Tokyo transfiguré par la vision d'un homme, un jeune occidental, Oscar, qui a un boulot, le deal, et une franche obsession, la défonce. Et ça va bien avec. Alors pendant la première partie du film, avant d'entrer dans le vide, nous sommes installés à la place d'Oscar. La caméra est subjective au point qu'on perçoit à l'image le clignement de ses yeux. Alors tout cela dure un temps avant que le jeune Oscar ne tombe dans un guet-apens et que la caméra décolle de son corps ensuite pour toute la fin du film. Alors du coup, on reste dans une vision subjective, mais on n'a plus les pieds sur terre, on navigue avec l'âme d'Oscar dans les airs. On revoit des périodes de sa vie, son enfance, sa sœur Linda, à qui il a promis suite à un drame familial qu'il ne la quitterait jamais, et il est bien embêté par cette promesse intenable. Alors Oscar, ou ce qu'il en reste, ne veut pas quitter le monde des vivants. Inspiré par le livre des morts tibétain, qui a longtemps fait planer les hippies des années 70 et qui décrit un processus de réincarnation, Noé tente d'emprunter ce chemin d'une âme tourmentée et sa vision psychédélique. Alors la vision d'ensemble, plutôt sombre dans l'image, est clairement hallucinatoire, la structure temporelle est brisée, passé, présent et futur se confondent sans cesse, mais Enter the Void, soit l'entrée dans le vide, même sans être linéaire, se suit très facilement. Alors un des enjeux du film, et qui peut aussi être une difficulté, c'est justement le cheminement de cet Oscar, qui est dans les airs, qui passe par les brûleurs à gaz, les cendriers ou n'importe quel objet brûlant pour rejoindre des lieux. Tout cela est écrit, figé et obéi à un cinéma de la manipulation, un cinéma cher à Lars von Trier, hein, qui atteint son paroxysme avec Dancer in the Dark, censé nous faire pleurer à chaudes larmes à la toute fin. Alors Noé nous impose des images qu'on n'aimerait pas forcément voir, mêlées à d'autres qui répondent à nos pulsions de voyeur. Et le personnage, en l'occurrence, est un voyeur ultime. Puisqu'il est mort, il est invisible, mais malgré tout présent. Alors Noé, fidèle à sa réputation, nous emmène dans les tourments de la sexualité, la sœur est stripteaseuse, Oscar saute sur tout ce qui bouge, on fait un tour dans le Tokyo Love Hotel et on va même à l'intérieur d'un vagin. Alors ça ne sera pas forcément l'image la plus éprouvante, mais c'est pas non plus la plus poétique. Les femmes pourront être choquées, gênées, agacées par d'autres images que Noé impose, et cette fois-ci sans carton nous prévenant qu'on a 30 secondes pour quitter la salle, comme c'était le cas dans Seul contre tous, avant qu'il y ait la vision d'un égorgement. Alors il faut dire qu'il n'y a pas de violence comparable à ce qu'on pouvait voir dans ses précédents films, au sens où il n'y a pas donc d'égorgement, pas de viol, mais en revanche il y a beaucoup de coït. Gaspard Noé aime montrer la sexualité, elle est le moteur de nombreux de ses personnages, et c'est aussi le cas dans Enter the Void. La sexualité impulse la vie et elle est aussi un moyen de reproduction, une reproduction que Noé expose avec deux points de vue radicalement différents, un point de vue pessimiste et morbide et un autre plus poétique à la manière d'un 2001 l'Odyssée de l'espace, l'homme, la vie, ce grand mystère. Alors dans un cas, il choque inévitablement et dans l'autre, eh bien, il peut surprendre. Cette entrée dans le vide, qui aurait pu s'appeler « Soudain le vide », hein, c'était le nom du projet initial quand il y réfléchissait à 20 ans sous l'emprise des champignons, au-delà de son esthétique hallucinatoire bourrée d'effets spéciaux à chaque plan, souffre peut-être eh bien, de certaines longueurs. Le film fait tout de même 2h30. Et ce sont 2h30 d'une vie de dealer, donc pas des aventures très romanesques, des séquences parfois très anecdotiques, des chroniques de la vie quotidienne boursouflées par des images sexuelles. Alors, il est clair qu'on peut s'ennuyer ferme si on ne laisse pas se porter par ce cheminement subjectif. S'identifier un petit dealer façonné au DMT, il y a beaucoup plus vendeur. Alors, il n'empêche, Enter the Void est une proposition de cinéma, son décor, sa mise en scène, sa caméra subjective, ses trajets aériens, son décor coloré, inspiré par un trip ou LSD, qu'on appellera design visuel, et sa bande sonore, qu'on appellera design sonore, préparée encore une fois par Thomas Bangalter, qui est membre des Daft Punk. Et pour rentrer un peu dans ce design sonore, qui est aussi un déluge visuel, c'est tout simplement eh bien, le générique de début, puisqu'il n'y aura pas de générique de fin en fange dans Enter the Void. Donc on écoute simplement le générique de début. Voilà ce que ça donne, hein, au niveau du son et à l'image, c'est un déluge de typographie, de couleurs, et tout le monde y passe, hein, tout le générique, mais en moins de 2 minutes. Et bien comme le générique aussi, hein, marque la frontière, un peu comme le rideau au théâtre marque la frontière entre le public et la scène, ou entre la réalité au cinéma et la fiction, là il se trouve que Gaspard Noé l'a bien enfoncé cette frontière. Les éléments dramatiques de Enter the Void tiennent à un fil, à une relation, celle du frère et de la sœur, relation fusionnelle, quasi amoureuse. Alors Noé se défend d'y placer des allures d'inceste. La sœur est interprétée par Paz de la Huerta, qui est aussi dénudée pendant tout le film, quasi dénudée pendant tout le film. Alors il y a un léger mieux par rapport à Limit of the Control de Jarmusch, où elle était complètement nue dans tous les plans où elle apparaissait. Alors tous ceux qui aiment la radicalité de Gaspard Noé y trouveront leur compte. Ceux qui ne connaissent pas Gaspard Noé vont peut-être se demander si l'exercice esthétique ne cache pas la vacuité de l'histoire. Mais après tout, rien ne vous empêche, comme vous le feriez avec un livre, eh bien de le fermer s'il vous malmène ou vous indiffère, et de quitter la salle. Gaspard Noé a des obsessions qu'il met en forme avec des outils cinématographiques, et il serait bien dommage de passer à côté. Il y a tellement de films sans style, de pure consommation, qui nous font perdre notre temps qu'on peut bien rester 2h30 à survoler Tokyo sous LSD. Ça n'arrivera pas souvent, et alors je vous recommande de ne pas attendre le DVD, hein, c'est un film pour la salle obscure, et venez avec votre rouleau de Chatterton ou de Gaffer pour combler les lumières qui restent dans la salle 4 du Diagonale. Entre celle de sortie de secours et une autre qui sert à je ne sais quoi, j'ai trouvé que c'était assez perturbant parce qu'on n'a pas le noir total comme par exemple l'exigeait Stanley Kubrick pour la vision de ses films, ou un autre esthète du cinéma comme Philippe Grandrieux. Et je pense que Gaspard Noé aurait aussi souhaité qu'il y ait le noir total dans les salles de cinéma. Mais pour des questions de sécurité, on ne peut pas éviter au moins le sortie de secours, mais bon...
C'est vrai que c'est assez pénible, ouais.
C'est de rajouter une autre lumière supplémentaire. J'ai vu qu'il y en avait deux, bizarrement. Je me suis dit, tiens, il ne fait pas très sombre. Et le film aurait gagné à avoir cette obscurité. En tout cas, Enter the Void n'a pas tellement de copies pour sa distribution en France. Il est projeté, en tout cas, au Diagonale, et seulement au Diagonale, sur Montpellier.
Eh bien, on va rester. Enter the Void raconte un petit peu le périple d'une âme qui refuse en quelque sorte de quitter la Terre. Et on va rester justement dans cette histoire d'âme avec âme en stock. Mais tout d'abord, donc, une petite annonce. Est-ce que vous êtes tourmenté si vous avez le poids du monde qui pèse sur vos épaules, si vous êtes en proie à la fameuse difficulté d'être dont parlait Jean Cocteau? Si vous voulez arrêter de souffrir, eh bien, c'est aujourd'hui possible grâce à l'entreprise Soul Storage, qui propose pour une poignée de dollars de désolidariser votre âme de votre corps et de la stocker dans le New Jersey en attendant que vous alliez mieux. Voilà, en fait, c'est en partant de ce prétexte de science-fiction plutôt étrange que Sophie Barthes a élaboré le scénario de son premier long métrage, Âme en stock, qui est sorti la semaine dernière en salle. Alors dans l'univers que la réalisatrice nous propose d'explorer, le quotidien est en tout point semblable au nôtre, si ce n'est donc l'apparition de cette nouvelle technologie qui permet de mettre notre âme en consigne dans un entrepôt et de repartir sitôt fait avec l'esprit beaucoup plus léger. Alors l'expérience va tenter un certain Paul Giamatti, interprété par Paul Giamatti, donc comédien new-yorkais de son état, qui n'arrive plus à surmonter son mal-être d'artiste torturé et qui a toutes les difficultés du monde à se débarrasser du personnage d'oncle Vanilla qu'il interprète dans la pièce éponyme de Tchekhov. Alors pour échapper à la dépression, il franchit le pas et décide de faire appel à Soul Storage pour procéder à l'ablation de son âme. Mais l'opération n'a pas vraiment les effets escomptés. Le pauvre acteur désincarné va très vite être entraîné dans une aventure surréaliste. Donc avec son premier film, Sophie Barthes lorgne du côté des scénarios alambiqués de Charlie Kaufman, lorgne du côté des personnages dépressifs et névrosés à la Woody Allen et d'une certaine science-fiction du quotidien qui avait été si bien utilisée dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, dont le scénario avait justement été signé par Charlie Kaufman. Alors l'innovation technologique qui est au centre du film suffit à créer une atmosphère décalée qui fait basculer le film dans une sorte de cyberpunk réaliste sans qu'il y ait besoin d'y ajouter des voitures volantes ou des androïdes. Le film fait une économie quasi totale d'effets spéciaux et seules une ou deux séquences oniriques et quelques accessoires qui sont plus vintage que futuristes ancrent le film dans la science-fiction. Alors le prétexte de départ donne naissance tout au long du film à plusieurs idées particulièrement originales. Donc sans âme, Paul n'est plus qu'une écorce vide et l'oncle Vania se transforme en cabotin vulgaire. Et la seule solution qui sauvera lui est de louer une âme de poète russe pour pouvoir assurer les représentations. Donc un service que Soul Storage propose bien évidemment. Il suffit de faire son choix dans un catalogue d'âmes, catalogue qui est alimenté par des donneurs anonymes. Mais bon, alors qu'une nouvelle niche économique est en train de voir le jour, un trafic d'âmes se met en place entre les États-Unis et la Russie. Et comme les âmes sont extrêmement volatiles en altitude, les trafiquants ont besoin de mules pour les transporter d'un pays à l'autre. Donc dans un cadre plus typé cyberpunk, le même type de ressort dramatique aurait pu donner naissance à un scénario très proche de Johnny Mnemonic, de William Gibson, qui avait été très mal adapté au cinéma. Et donc Johnny Mnemonic dans lequel un mercenaire loue une partie de son cerveau pour transporter des données informatiques en toute sécurité. Mais bon, ici, ces différents éléments permettent surtout, dans la grande tradition de l'anticipation, d'amplifier certains aspects du monde réel pour y porter un regard un peu plus lucide. Donc le choix d'avoir fait jouer à Paul Giamatti, non pas son propre rôle, mais plutôt une version de lui-même dépressive et torturée, ça aussi, ça vient ancrer un petit peu plus cette histoire délirante dans le réel. Et là où un Charlie Kaufman aurait eu tendance à tirer le récit vers trop d'introspection psychanalytique, comme ça avait été le cas dans La peau de John Malkovich, dans Adaptation, et encore plus dans Synecdoche New York, eh bien, Sophie Bart choisit de ne pas trop s'apesantir sur un exercice d'auto-analyse et de privilégier l'émotion, en particulier dans la deuxième partie du film qui, délocalisation en Russie oblige, acquiert un caractère plutôt mélancolique et contemplatif. Alors, un autre point fort de ce film, c'est la musique de Lassa, qui ponctue la bande originale discrète signée Deacon Hinchcliffe et qui vient de façon assez efficace provoquer l'émotion mais aussi le rire quand par exemple elle sert au sein même de l'histoire à vérifier la capacité à s'émouvoir du personnage une fois qu'il a été débarrassé de son âme. Donc voilà, la grande réussite de Sophie Bart à mon avis c'est d'être parvenue à éviter l'emphase dans laquelle son scénario aurait pu l'entraîner. Si l'histoire tourne autour de la question de l'âme, de sa nature, etc., à aucun moment on est confronté à un discours philosophique ou théologique pompeux. Donc chaque fois que le sujet est abordé, il est désamorcé avec humour. Dans Âme en stock, les précieux 21 grammes qui nous séparent des choses qui n'ont pas d'âme apparaissent sous la forme de cailloux, de brindilles ou de pois chiches dans le cas de Paul Giamatti. Et pour le docteur en chef de Soul Storage, il ne s'agit finalement que d'un organe comme le cœur ou le foie, voire d'une tumeur dont il vaut mieux se débarrasser. Donc c'est avec légèreté et un certain humour que Sophie Bart traite son sujet, et c'est tant mieux, parce que si son film est finalement moins fou, moins baroque que ceux scénarisés par Charlie Kaufman, son propos est quand même un peu plus digeste. Voilà, donc Âme en stock, c'est un premier film très réussi, même si bon, il y a quelques petites baisses de rythme par moment. La poésie et l'humour que la réalisatrice a réussi à distiller dans son scénario est parfaitement servi par un casting irréprochable. Donc Paul Giamatti est parfait en ours mal léché, complètement à côté de ses pompes, qu'il ait une âme ou non dans la caboche. Face à lui, il y a Dina Korzoun qui est parfaite en mule transporteuse d'âme, dont le cerveau est petit à petit envahi par des résidus de ses livraisons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la place pour son âme originale. Et enfin, David Strathairn et Emily Watson sont eux aussi excellents dans des rôles secondaires qui apportent respectivement humour absurde et émotion à fleur de peau au film. Donc voilà, une belle surprise qui révèle une réalisatrice à suivre. C'est un film qui est diffusé uniquement en version originale. Je crois que même sur Internet, vous ne pouvez pas trouver d'extrait en version française. Ça passe au Diagonale. Et avant de passer à la suite, je vous propose d'écouter donc un petit extrait de la bande originale du film.
La route chante quand je m'en vais, je fais trois pas, la route se tait, la route est noire à perte de vue, je fais trois pas, la route n'est plus. Sur la marée haute, je suis monter. La tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis monté.
Voilà donc Lhasa, un extrait de la bande originale de Am en stock. Lhasa qui a une petite place assez intéressante dans le film puisqu'elle est, la musique est également intradiégétique, comme on dit, elle est dans l'univers du film. Voilà un film que je vous recommande d'aller voir, Am en stock.
Et c'était un hommage à Lhasa, tu t'es documenté là-dessus parce que, enfin, on le rappelle, Lhasa est décédé il y a 3 mois maintenant.
Je crois. Oui, bah je pense que voilà, c'est aussi lié, mais bon, il y a clairement c'est un hommage aussi puisque dans la scène dont je parle, voilà, Lhasa est utilisé vraiment pour tester le personnage, voir s'il peut encore éprouver des émotions. On lui présente un petit lapin dans un tiroir, voir s'il ressent quelque chose. On lui passe un peu de Lhasa. Et bon, sans son âme, c'est dur de ressentir des choses.
En tout cas, là, il est question des 21 grammes, ce qu'on perd visiblement quand on meurt. Et dans le Gaspar Noé, dans Enter the Void, il est question plutôt du DMT, cette substance qui est donc lâchée par le corps quand, paraît-il, on approche la mort. Voilà. Enfin, qui peut être reproduit au niveau synthétique et donc faire une drogue surpuissante qu'affectionne particulièrement le personnage de Enter the Void. Mais passons à toute autre chose, passons au cinéma art et essai cette fois-ci, voilà, avec Raja Amari. Raja Amari qui est une réalisatrice franco-tunisienne qui a fait ses études en France à la FEMIS et elle sort son deuxième long métrage Les Secrets qui donc sortira la semaine prochaine. Mais elle est venue présenter en avant-première son film, et bien c'était jeudi dernier au Diagonale. C'est un film avec Afzia Erzi, voilà, qu'on a vu dans La Graine et le Mulet notamment et dans Française. Et c'est l'histoire d'Aïcha, Radia et de leur mère qui vivent à l'écart du monde dans une maison à l'abandon dans laquelle elles ont déjà travaillé comme domestiques. Et leur quotidien vacille le jour où un jeune couple vient s'installer dans la maison. Alors les trois femmes cachent leur existence aux nouveaux venus de peur d'attirer l'attention sur leur situation et d'être chassées. Alors Aïcha, surprotégée par sa sœur et sa mère, va saisir cette intrusion pour s'émanciper. Alors un film qui aurait pu être un film de genre, imaginez que les nouveaux arrivants croient entendre des bruits, mais c'est resté un film dans la pure tradition de la description sans toucher au genre fantastique. Alors pour Aïcha, c'est la découverte de la féminité, de la sensualité. Donc certaines scènes sont légèrement dénudées, vraiment très légèrement, c'est-à-dire qu'on voit une poitrine, hein, mais ont été quand même mal reçues en Tunisie. Alors nous avons posé quelques questions à Raja Amari. Alors d'abord sur la nécessité d'ancrer son film en Tunisie, elle aurait pu le tourner n'importe où ailleurs. Parce que là, forcément, si elle parle de la féminité, si elle parle des femmes, on va lui dire « Mais finalement, est-ce que vous nous parlez des femmes tunisiennes ?» Et ensuite, la deuxième question, eh bien, c'est sur l'éventuelle retenue dans l'évocation de la nudité. Donc on écoute la réalisatrice Raja Amari et on espère avoir le réalisateur bientôt de Eighth Wonderland dans Cinérama.
Ce qui m'intéressait, c'était de pas retomber peut-être dans les mêmes schémas de films où on est dans une représentation d'une femme, de la femme victime d'une société machiste, etc. Uniquement, enfin, il y a évidemment en filigrane, le film a été tourné en Tunisie, effectivement, il y a des choses qui apparaissent hein, de cette société-là, du rapport au corps, du rapport au désir. Et donc tous ces aspects-là sont présents dans le film. Mais je voulais aussi tirer le film vers quelque chose de plus féerique, de plus cinématographique, dans le traitement, en tout cas, dans la mise en scène. Voilà, donc c'est plus voilà, esthétiquement où je voulais aussi m'éloigner de ces codes-là qui sont toujours là et qui, en tout cas, ça m'intéressait de m'éloigner un peu d'une certaine manière de traiter les choses.
Justement, moi, c'est des questions que je me pose souvent quand je rencontre des réalisateurs qui sont entre deux pays, et c'est votre cas, hein, parce que vous êtes franco-tunisienne. C'est à partir de quel moment ils peuvent s'extraire de leur contexte culturel ? Vous dites justement que vous avez voulu vous extraire du contexte social tunisien, mais il n'empêche, vous avez tourné en Tunisie. À partir de quel moment vous pourriez tourner ailleurs qu'en Tunisie et faire peut-être encore un autre film ?
Oui, moi je crois que, enfin le prochain, je crois que je pourrais le tourner ailleurs. Enfin, j'ai déjà écrit des histoires qui se passent ici ou entre les deux. Ou voilà, pour moi le territoire, il est d'abord cinématographique. Pour faire un film qui se passe en Tunisie, moi, à mon niveau, j'ai des influences cinématographiques très très diverses et très universelles. Hein. J'ai été influencée par beaucoup de cinéastes différents et pas uniquement tunisiens ni arabes, même si effectivement j'ai une sensibilité particulière pour ce cinéma-là. Mais effectivement, il y a sûrement, oui, un moment où on se dit... C'est vrai que pour moi, quand j'ai commencé à écrire premier film que j'ai écrit, pour moi, c'était évident que ce soit que le film soit tourné en Tunisie et que l'histoire soit bien là, qui correspondant à des choses très particulières que j'ai vues, que j'ai connues. Mais celui-là, en tout cas, c'est moins le cas. Mais je crois aussi par le caractère de ce personnage-là qui le permet aussi. Ce que vit le personnage de Aïcha le fantasme aussi beaucoup. Elle déforme la réalité selon ses désirs et selon son imaginaire et elle évolue d'une manière particulière aussi parce qu'elle s'approprie le monde à sa manière. Elle commence à voir de la sensualité dans la vie, dans les choses, parce qu'elle a envie aussi de ça. Elle a envie d'accéder à ses désirs et à reconnaître son corps. Donc je pense que le personnage permet cette évasion, si on peut dire. Le contexte, il est là. Mais je peux dire aussi que d'un autre côté, cette histoire pourrait aussi se passer n'importe où. Le film est sorti en Tunisie il y a quelques mois. C'est vrai que la sortie était un peu compliquée. Le film a suscité une vive polémique. Moi, je trouve que c'était sur des aspects quand même... justement ce que le film touche, hein, le corps, le rapport au désir, au corps, l'émancipation des femmes, etc. Donc ça n'a pas raté. C'était sur ça que le film a été attaqué. On m'a reproché de donner une image négative de la femme tunisienne, que le film... montrer des femmes déviantes sexuellement, etc. Et effectivement, la scène, je crois, qui a le plus choqué les gens, même si pour moi, c'était pas la plus, qui aurait pu être la plus... aurait pu susciter une polémique, c'est la scène où la fille était nue dans la salle de bain, alors que bon... En fait, le public a été divisé, puis il y a une partie du public qui a beaucoup défendu le film, et moi, J'aime bien retenir ça, en fait. Voilà, dire que quand même, il y a encore des gens qui sont là pour défendre une autre vision des choses défendre la différence, oui.
Alors cette scène, justement, hein, c'est une scène où la captive, la nouvelle captive, donc, est lavée par une des sœurs. Quand j'ai regardé la séquence, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais est-ce que finalement vous aviez pensé à ne pas montrer sa poitrine et à cadrer d'une manière à ne pas montrer la nudité, me doutant que ça poserait problème en Tunisie ou dans les pays maghrébins?
Alors en fait, moi j'essaye en tournant ces scènes-là de pas me poser les questions comme ça, parce que ça c'est un piège énorme et effectivement quand je mets en scène, j'essaye de me détacher au maximum de ça parce que ça n'en finit pas. Parce que sinon on fait rien, en fait. Moi, ce que je fais, c'est que je répète avec les acteurs, enfin là, les actrices, et je vois en tout cas pour moi, le meilleur angle possible de tourner la scène. Pour moi, je n'ai pas tourné cette scène de manière à montrer. Hein, elle est souvent de dos, Mais j'ai pas du tout découpé la scène. J'ai essayé de les laisser jouer cette scène d'une manière, en tout cas spontanée entre guillemets. L'une lave l'autre. L'indication, en tout cas que j'ai donnée à la sœur qui lave, c'est de le faire un peu à la manière, quand on lave un enfant, et en même temps d'avoir un rapport avec ce corps, conflictuel, oui, avec cette fille qui est à l'aise dans sa nudité et elle qui ne l'est pas. Donc cette scène, elle est un peu violente. Parfois, quand elle lui frotte le dos d'une manière très énergique, ou ses gestes sont brusques. Et elle est quelque part dénuée de sensualité, dans le sens où on est dans quelque chose de très pratique, on va dire. Voilà. Et en même temps, cette nudité va permettre aussi à la sœur la nudité de la fille lui renvoie sa frustration et lui fait parler aussi de cet enfant qu'elle a eu, de ses traumatismes passés, etc. L'angle, en tout cas, duquel on a tourné était pour moi le plus évident, parce que voilà, on ne cache pas, mais on ne montre pas non plus. Pour moi, elle répondait en tout cas aux besoins de la scène. Mais c'est vrai que j'essaye de pas me dire, je vais penser à ce que va penser. Sinon, je ne ferai pas le film. Je ne ferai pas de film du tout, de toute façon.
Aïcha, qu'on fait ça, qu'on...
Mais en fait, c'est pas au niveau du genre. C'est pas forcément les femmes qui ont défendu le film et pas forcément les jeunes. C'est une partie du public, je ne sais pas qui ils sont socialement mais pareil, enfin pour pour répondre à la question à l'envers, il y a eu une violence envers le film, de femmes aussi, de jeunes, voilà, qui ont été très véhéments contre le film. Donc, c'est juste, en fait, des gens qui ont une vision différente des choses et qui du coup, l'expriment. Et voilà.
C'était Raja Amari, donc réalisatrice du film Les Secrets, qui sortira la semaine prochaine. Donc, on a parlé d'autre chose hein, dans cette interview. Et j'en ferai des petits extraits pour la semaine prochaine.
Voilà, et on va passer donc à Eighth Wonderland, un film qui sort aujourd'hui. Voilà, le huitième Pays des Merveilles, qui sort donc aujourd'hui, que j'ai pu voir jeudi dernier, donc après une aventure incroyable pour essayer de joindre un des co-réalisateurs. On a enfin réussi à en attraper un, ce sera Nicolas Alberni, mais tout de suite je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce film qui sort donc aujourd'hui.
Non-lieu dans l'affaire du sang contaminé.
La construction de 3 centrales nucléaires.
Les nombreux incidents qu'a connus notre pays.
Prostitution. Peine de mort.
Al-Qaïda.
Bombardement.
Terrorisme. L'exploitation des masses et le manque de dignité.
Armes de destruction.
Eighth Wonderland est à la base un pays virtuel.
Bonjour à vous, citoyens de Eighth Wonderland. Sa population s'élève désormais à plusieurs millions d'habitants. Son pouvoir est bien réel.
Est-ce que t'as Internet chez toi ?
Eighth Wonderland.
À Eighth Wonderland, on est la seule vraie démocratie.
Je pense qu'on tient notre prochaine motion.
Les fidèles du Vatican ont trouvé leur église équipée d'un tout nouveau gadget.
Les distributeurs de préservatifs ont été scellés sur les murs du Vatican.
Pour le moment, personne ne nous prend au sérieux.
Alors ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est des projets plus ambitieux.
Le monde entier a en ce moment les yeux braqués sur cette entrevue historique entre les deux chefs d'État.
Eighth Wonderland revendique l'ensemble des actions qui ont récemment frappé.
Eighth Wonderland n'est pas reconnu par les autres pays. Ces lois n'ont aucune valeur.
Nous devons régler le problème de ce site. Ils vont trop loin.
Qui a proposé cette motion ?
Il est hors de question de voter ça.
Vous n'avez pas osé.
Regardez.
Vous organisez des procès sur Internet.
C'est du terrorisme.
Jamais mon pays ne ferait une telle chose à des innocents.
Tous les pays vont nous persécuter.
On est un pays qui n'existe pas. Comment tu peux nous arrêter ?
Donc voilà, Eighth Wonderland, le film tourne autour de ce pays virtuel qui est mis en ligne à un certain moment et petit à petit, il va faire parler de lui. Donc les membres de ce pays vont voter des motions, engager des actions, un peu ce qui se fait sur Facebook quand les gens se donnent rendez-vous pour faire des sortes de happening. Et petit à petit, voilà, les motions vont devenir un peu plus sérieuses, un peu plus politiques. Un ambassadeur va être élu et le site va prendre de plus en plus d'importance, qui va commencer à gêner les véritables hommes politiques des pays réels. Donc, alors moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui voilà joue avec ce site virtuel de façon assez maligne. Ça fonctionne avec une sorte de grande assemblée générale virtuelle, une sorte de salle où chaque citoyen peut venir discuter, voter les motions, etc. Alors, est-ce qu'on a Nicolas Alberni en ligne ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Ah, super. Donc déjà, merci beaucoup de participer à l'émission, parce que ce n'était pas du tout prévu. Donc, merci à vous. Rapidement, quelques petites questions sur le film. Déjà, comment est née l'idée de ce pays des merveilles virtuel ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez élaboré depuis un certain temps, ou est-ce que c'est né assez rapidement ?
Alors, attendez, j'ai un petit souci technique. Je vous entends qu'à moitié. Alors, je vais monter le son de mon téléphone. Attendez, juste une seconde.
Ah, ce sont les aléas du direct, comme on dit. Donc,
non, excuse-moi.
Voilà, c'est mieux comme ça ?
Oui, c'est beaucoup mieux.
Ok, donc voilà, je voulais juste savoir en fait d'où venait l'idée de ce pays virtuel. Est-ce que c'est en réaction donc à ce qui se passe un peu sur Internet depuis un certain temps avec les sites comme Facebook, comme Second Life éventuellement, qui propose donc un monde virtuel. D'où vous vient en fait cette idée ?
L'idée date d'il y a quand même 4 ans. À cette époque, les réseaux sociaux tels que Facebook, que vous citiez, pas vraiment, n'avait pas vraiment émergé. Donc, en fait, tout était parti d'une idée de court-métrage qu'avait mon co-réalisateur, donc Jean-Mac, qui a donné une scène dans le film, qui est celle du G8. Alors, je vais pas la raconter pour préserver la surprise. Mais tout est parti de cette idée de court-métrage. On en avait marre de se cantonner à faire des courts-métrages, donc on s'est dit on va essayer de structurer toute une histoire autour de ce scénario de court-métrage, et ça a donné donc l'idée du site finalement. Mais à l'époque, en fait, ce qui était le plus en vogue, c'était surtout Second Life, dont que vous citiez, et on a essayé d'extrapoler un petit peu le concept de Second Life en disant que les gens pourraient interagir sur le monde réel, ce qui n'était pas le cas avec Second Life.
Alors, la science-fiction, c'est pas vraiment la tasse de thé des boîtes de production françaises. Est-ce que le financement du film a été dur à monter ?
Oui, absolument, à tel point qu'on a dû le monter par une voie autre que celle des financements officiels, en fait, qu'on peut trouver en France, quoi, le CNC et tout ça. Donc, on a dû faire appel à des mécènes. Comme je vous le disais aussi à l'époque, donc les réseaux sociaux n'avaient pas telle qu'à l'heure actuelle. Donc les gens qui lisaient notre scénario ne voyaient pas peut-être l'attrait qu'aurait pu avoir en fait ce genre de site, et ils n'y captaient que dalle en général aussi quand ils lisaient le scénario, parce que c'était pas très répandu à l'époque. Donc, il a fallu qu'on... Il y a beaucoup de bruit autour de moi, j'espère que vous m'entendez.
Oui, c'est bon, on vous entend très bien.
Donc il a fallu qu'on fasse appel, comme je vous le disais, à des organismes privés. On a mis aussi un petit peu de nos deniers à l'intérieur du film. Et au final, on a réussi à autofinancer quasiment le projet. Et tant mieux, parce qu'en fait, si on était passé par la voie officielle, je pense que le film sera encore sur des étagères. Et vu que le sujet était plutôt actuel, il valait mieux le faire vite.
En tout cas, vous êtes bien débrouillé, parce que c'est un film qui est assez ambitieux. Voilà, il y a beaucoup d'effets spéciaux, en particulier dans cette salle virtuelle qui accueille un peu les assemblées générales du Eight Wonderland. Comment ça s'est organisé, ces parties, là, ces séquences qui se passent dans cette agora virtuelle? Comment vous avez organisé le tournage et le montage de ces séquences?
Alors le tournage, c'était quasiment des vacances, parce qu'après 3 semaines de tournage en équipe lourde, avec des vraies séquences, avec de la steadicam et des grues, des choses comme ça. Là, on revenait à un tournage en équipe très légère, puisqu'il suffisait de poser sa caméra sur un pied et de diriger un acteur, en fait. Donc, pendant une semaine, on a fait toutes les vidéos qui sont dans la salle virtuelle. Par contre, ce qui était plus dur, après, c'était de les intégrer donc dans cette fameuse salle d'image de synthèse, que l'on doit d'ailleurs à notre superviseur des effets spéciaux, qui s'appelle Pierre Lergenmüller. Il nous a trouvé le concept un petit peu de cette salle. Et au niveau d'un point de vue technique, oui, c'était un challenge, parce qu'en fait, comme on les a fait tourner séparément, tous les acteurs, on ne savait pas si les répliques allaient pouvoir matcher en salle, ou si le timing serait bon. Donc, imperceptiblement, au montage, on a accéléré quelques petites parties où les gens ne parlaient pas, en fait, où on ne voyait que leur réaction, pour que justement les dialogues se matchent entre eux. Et par exemple, pour une scène qui devait durer 3 minutes, on devait faire 3 minutes fois 12, quoi, en gros. Donc on devait en monter 40 et quelques.
Donc c'est surtout au montage que ça s'est organisé, goupillé, parce que sinon c'est seulement des plans fixes, voilà, de personnes face caméra.
Oui, absolument. Bon, on avait quand même 2-3 idées d'interaction entre eux, parce que souvent quand, par exemple, un personnage envoie un email sur un autre écran, donc on le faisait jouer à l'acteur, qui regarde en l'air à ce moment-là, ou lorsqu'il trinque entre eux, en fait, il y a deux écrans qui se percutent, justement, pour donner l'impression qu'ils sont proches les uns des autres. Donc ça avait été décidé en amont, mais l'essentiel du découpage, on l'a fait après tout, ouais. On l'a fait en post-production.
Et comment vous avez peuplé alors ce pays, parce qu'on voit quand même une cinquantaine de citoyens wonderlandais. Vous avez organisé un casting classique, ou est-ce que vous avez utilisé Internet pour le coup et lancé un appel, comme avaient fait Yannick Dahan et Benjamin Rocher sur La Horde, qui avaient contacté des fans de zombies pour venir tourner dans leur film?
Oui, exactement, ouais. Alors eux, c'était plus désagréable, je crois, parce que les figurants devaient être maquillés et se retrouver dans un entrepôt à moins 15. Nous, c'était plus soft. On leur disait juste, en fait, la phrase accroche, c'était « participer à un long métrage tout en restant chez vous ». Donc en gros, les personnes pouvaient se filmer comme s'ils étaient devant une webcam en train de réagir. et nous envoyer ensuite des vidéos qu'on a incorporées dans la salle virtuelle pour la peupler.
Donc c'est oui, c'est quand même un peu plus confortable que de devoir se déplacer, se maquiller en zombie. Alors, une petite question pour essayer de parler du fond du film. Vous avez un regard à la fois optimiste sur Internet quant à son pouvoir fédérateur, et en même temps, c'est assez pessimiste parce que les décisions qui sont prises au sein du Wonderland, petit à petit, vont vers une sorte de totalitarisme. Ça pousse même à des actes terroristes. Est-ce que vous pensez que la technologie est prête pour lancer des initiatives comme ça, fédératrices ou consultatives, mais que l'humain est un peu à la traîne et même avec une démocratie parfaite, idéale, on tomberait quand même dans des travers presque de fascisme, en tout cas de terrorisme.
Eh bien, comme on dit, en fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Donc, en effet, le pouvoir d'Internet à l'heure actuelle est indéniable. Donc, c'est ce que les gens vont faire de ce pouvoir-là qui va peut-être poser problème. On a voulu quand même axer le film sur l'optimisme plus que le pessimisme, parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'on représentait Internet, c'était d'une manière plutôt pessimiste. Et on a essayé de jouer un petit peu sur les deux tableaux, en effet, parce que ça nous semblait un petit peu réaliste. Et il y a une phrase du film aussi qui dit vers la fin quel pays n'a pas connu de pages sombres en fait dans son histoire. Donc il me semblait nécessaire aussi de montrer les dérives que pouvait amener un tel système.
Oui, parce que bon, on se rappelle tous que c'est un peu un poncif de dire ça, mais que Hitler a été élu grâce à la démocratie, que en 2002, il n'y a pas si longtemps, on aurait pu avoir un schéma un peu identique. Donc voilà, ça c'est des questions que soulève votre film que j'ai trouvé assez passionnantes. Pour parler rapidement d'autre chose, le site internet, parce que Eight Wonderland ne disparaît pas une fois que la lumière se rallume dans la salle. On se rappelle tous de l'utilisation qu'avaient fait l'internet les réalisateurs de Blair Witch il y a quelques années. Sur District 9 plus récemment, on avait vu fleurir un peu différents sites, de différents faux sites sur internet de défense de droits des extraterrestres, etc. Là vous proposez carrément de prolonger l'expérience dans le monde réel avec ce site internet. Vous en êtes à l'origine?
Alors, on en est à l'origine, en effet, mais le webmaster ne travaille pas pour nous. En fait, c'est-à-dire que on lui a demandé de le créer, mais nous ne sommes que des citoyens, en fait, parmi 2000 personnes à l'heure actuelle présentes, je crois, qui ont leur passeport. Et vous avez signalé la différence qu'il pouvait y avoir donc entre le Blair Witch ou District 9 ou même le Cloverfield dans une moindre mesure.
Oui, vous savez.
Donc leurs vidéos et leur site reposaient sur du fake. En fait, c'était des acteurs qui se faisaient passer pour des personnages réels. Là, il se trouve que donc les citoyens qui sont présents dans le site sont des réelles personnes qui ont fait la démarche de vouloir être citoyen. En fait.
Voilà. Donc on est plus dans une démarche un petit peu ce qui ont tenté ceux qui s'occupent de l'émission Groland, à acquérir la citoyenneté grolandaise, simplement en s'inscrivant. Mais bon, là, il y a quand même des motions qui sont proposées, des votes qui sont organisés. Et finalement, pourquoi ce site ne pourrait pas devenir une sorte de thermomètre de l'opinion publique comme c'est le cas au début dans le film. Donc ça c'est assez intéressant. Il y a quand même une question qui revient assez souvent dans le film et vous en parliez là juste à l'instant, mais alors vous connaissez le webmaster, c'est ça?
Oui, mais je ne dévoilerai pas son identité, bien sûr.
Ouais, je m'en doutais. Donc juste pour terminer, est-ce que vous avez des projets là sur le feu, peut-être toujours avec Jean-Mac, une suite à Eight Wonderland?
La suite alors va dépendre énormément de l'accueil d'aujourd'hui, parce que de toute façon toute suite répond à un succès en salle, enfin, du premier opus. Donc je crois que ça va beaucoup dépendre en fait de la semaine qui vient, la semaine de sortie du film. Mais en effet, la suite est en chantier, on nous l'a proposé. On a quelques idées, on a aussi quelques idées pour décliner le concept en série. On prendrait plus le temps de développer les personnages et l'émotion aussi. Donc pour l'actualité immédiate, c'est surtout la sortie du film. Là, je vous avoue qu'on n'a pas trop d'autres projets sur le feu pour l'instant.
D'accord. Mais en tout cas, on suivra. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié le film. Je le recommande chaudement à nos auditeurs. Et donc, je vous souhaite bonne chance pour cette sortie en salle aujourd'hui. Que les spectateurs soient nombreux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, même si c'était un petit peu brinque-ballant cette interview. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Sur les grands boulevards parisiens, j'imagine.
Sans doute.
En tout cas, Eighth Wonderland a l'air d'être projeté, hein, si je m'en tiens aux informations que j'ai. Donc, au Royal, où tu l'as vu, forcément.
Tout à fait, en version française.
Au Diagonal, en VO.
Version originale.
Sous-titré. Et puis aussi au Méga CGR, sans doute, en VF. Et puis aussi à l'Athénée de Lunel. Et au Comédia de 7. Voilà, donc ça fait pas mal d'écrans, hein, finalement.
Alors, un conseil qui, ça aussi c'est un pensif dans l'émission, mais allez le voir en version originale, puisque le film, les citoyens wonderlandais parlent 20 langues, 30 langues différentes, et les séquences ont été tournées justement dans ces langues-là, donc on entend du russe, du chinois, du japonais, du wolof. Et
si on va le voir en VF, on aura simplement les accents, donc
des différents doubleurs de
ces personnages.
Donc ça, c'est bon, ça m'a pas gâché le film, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. En tout cas, voilà, c'est un film que je recommande chaudement. Allez-y.
Nous passons maintenant à Godard qui va sortir, Jean-Luc, son film de la semaine prochaine. Et donc les 17 et 18 mai, pendant 2 jours seulement, vous pourrez découvrir en avant-première et en VOD, vidéo à la demande, simultanément à la projection du film à Cannes, film Socialisme, donc le dernier film de Jean-Luc Godard en exclusivité sur filmotv.fr, site qui est l'émanation de la société Wild Bunch, grande société de production française et de distribution surtout. Alors parallèlement à cette exclusivité, Jean-Luc Godard a donné à Edoui Plenel, Ludovic Lamant et Sylvain Bourmeau du site Mediapart une interview de 2 heures. Elle sera diffusée en 10 épisodes sur www.mediapart.fr à partir du 10 mai 2010. Alors l'ennui, c'est que Mediapart est un site payant. Enfin l'ennui, pas forcément, parce que aussi on peut payer l'information. Ça arrive quand vous achetez votre journal tous les jours, donc pourquoi pas le faire sur Internet. En tout cas, Isabelle Régnier, qui est critique au Monde, annonce sur son blog que cette interview sera ou serait donc disponible gratuitement sur Filmo TV les 17 et 18 mai. Mais pour l'instant, donc, je n'ai pas retrouvé l'info sur le site Filmo TV, donc j'espère qu'elle a de bonnes informations, puisqu'il est annoncé effectivement que le film de Jean-Luc Godard pourra être vu. Alors quand je parle de VOD, ce sera pour 7 €. Donc en une seule séance, et moi je me dis que pour 7 euros finalement il vaut peut-être mieux attendre de le voir en salle, parce que le ticket de cinéma coûte moins cher, en tout cas c'est le cas au Diagonal. Donc on va écouter une petite bande-annonce qui a été préparée par Mediapart, alors j'ai mis une couche musicale dessous. C'est parti pour 4 minutes avec Godard.
Ça me stupéfie qu'un enfant de 3 ans puisse demander pourquoi. Où il a appris ce mot, le sens de ce mot, qui est tout un truc comme ça, c'est venu comme ça. Ça devrait venir très à la fin, tout ça. À la fin de sa vie, peut-être. J'ai dû arrêter le tennis, j'aimerais bien reprendre, mais c'est... Kein Warum. Hier ist kein Warum. Traité de Lisbonne, est-ce que ça vient du tremblement de terre sous Voltaire? Aujourd'hui, les salauds sont sincères. Enfin, on peut espérer entre les animaux, ils n'ont encore pas de carte d'identité. On m'a souvent dit du coq à l'âne, mais après tout, c'est les animaux. Si les Belges n'avaient pas mis sur les papiers d'identité des Tutsis, et sur les papiers des Hutus, maintenant, ils n'ont qu'à mettre Tutsis flamands et où tout va long, ou le contraire. Non seulement j'aime la France, mais la France m'aime un peu quand même. Ah, c'est pas juste 3 vers de terre et comme ça, avec un dialogue de Platon par-dessus. Je suis pas Marguerite Duras. Moi, je mange pas mal de pommes aussi, comme ça, mais je les regarde longtemps aussi. Il fait croire que j'étais un garçon à filles. J'ai eu que des malheurs avec les filles. Je me souviens de reportage avec André Glusman à Nantes, comme ça, c'est moi qui le faisais, c'est lui qui signait l'article, et lui il était contre un arbre. J'aime bien le journaliste d'investigation. Je cette histoire de Grèce, non, je comprends pas. Les Allemands qu'à payer et à dire merci. Ils l'ont envahi combien de fois? Ils l'envahissaient avec les touristes combien de fois? Aujourd'hui, on devrait fusiller beaucoup de gens. Il n'y a aucun État qui ose le faire. Michelet, quand il parlait du comité de salut public, il disait c'est des gens qui ne dormaient pas, qui étaient et qui pleuraient tout le temps. Il allait ceux-là fusiller, puis il pleurait. Facebook, tout ça, je sais même pas ce que c'est. Des fois, je regarde, moi j'aime bien Dr. House, comme beaucoup de gens. Un film d'entreprise, j'en ai fait un pour France Télécom aussi, comme ça, qui n'est jamais sorti. Ce que j'espère, c'est qu'il y aura beaucoup de pénalties. C'est ça que j'aime bien. Du reste, l'Europe, si elle va mal aussi, c'est parce que ça s'est fait quand même par des... Bon, des pauvres gars, comme Schuman, ou comme Monnet, ou comme ça, enfin, des pauvres gars, des... Et comme ça, mais ils ont commencé par le charbon et l'acier. Non, mais il faut être... Et après, ils ont fait l'euro. Mais comment ils veulent que ça marche? Ça, moi, j'en fusillerais pas mal. J'avais eu ça avec Delon sur, je m'en souviens plus quoi, sur Nouvelle Vague. Je lui ai dit, on tourne pas. Je lui ai dit, non, il y a un figurant qui est malade. Moi, j'ai pas de retraite, je la prendrai pas, j'en veux pas. Lionel Messi touche 30 millions d'euros par an, et comme c'est pas assez, il se fait représentant des voitures riches, qui s'appellent riches en plus, de la Chine. Ma mère et mon père, en fait, n'avaient jamais vu de film parlant avant ma naissance. Ils n'avaient vu que des muets.
Voilà, c'était Jean-Luc Godard qui a envie de fusiller des gens, hein, d'après les extraits que j'ai vus. Donc, eh bien, c'est une interview de 2 heures découpée en 10 parties que vous pourrez voir donc sur le site de Mediapart si vous êtes abonné Mediapart, et ce sera peut-être l'occasion de vous abonner. Et donc, selon Isabelle Régnier, critique du Monde, ils seront aussi disponibles gratuitement sur filmotv.fr les 17 et 18 mai seulement.
Moi, je ne sais pas si je dois être rassuré ou inquiété de savoir que Jean-Luc Godard est aussi fan de la seule série que je suis, Dr. House. Je vais peut-être arrêter de regarder ça. Ou alors non, c'est simplement ça. Voilà, ça permet de joindre ma formation Nouvelle Vague à l'université et mon actuel goût pour la série télé. Pour conclure, donc quelques mots rapidement sur Cannes, parce que je ne sais pas si vous savez, enfin ça a été assez confidentiel dans les médias toute cette semaine, puis ça va l'être encore plus pendant les 2 semaines à venir. Mais le Festival de Cannes a débuté aujourd'hui, donc Godard, il sera justement présent avec son film. Rapidement, non, moi j'avais juste envie de pousser un petit coup de gueule donc avec cette nouvelle édition du festival des grosses cylindrées de l'argent et du star system, parce que encore une fois les sélectionneurs se sont surpassés en ne sélectionnant que des cinéastes déjà sélectionnés les années précédentes. Quasiment, non pas que, j'abuse.
Amalric, par exemple, n'a pas été...
Voilà. Mais bon, le jury 2010 devra quand même faire attention à ne pas récompenser quelqu'un qui l'a déjà été récemment, hein, comme parmi la sélection Nikita Mikhalkov, qui a eu le Grand Prix du jury en 94, Mike Lee, Palme d'Or en 96, Abbas Kiarostami, Palme d'Or en 97, Alexandro González Iñárritu, Prix de la mise en scène en 2006... Rachid Bouchareb avec Indigène qui rafle le prix d'interprétation masculine en 2006, etc. Donc voilà, juste c'était pour signaler une sélection officielle placée sous le signe de l'originalité et de la prise de risque.
Ouais. Bon, en même temps, moi, j'ai rien contre certains réalisateurs qui peuvent avoir des prix à la suite.
À répétition, tout, mais... non, c'est sûr, mais c'est... Voilà, c'est il y a un petit peu le Gotha des cinéastes pour Cannes. Ouais. Et bon, encore une fois, voilà, mais je ne devrais plus m'étonner avec ça. C'est chaque année la même chose.
Mais à noter quand même qu'il y a la Palme d'Or, c'est une chose. Hein. Enfin, c'est une compétition, mais
il y a les
aussi,
autres sélections.
Voilà, certains regards, Godard est dans un certain regard. D'ailleurs, il n'est pas dans la compétition officielle, qui est peut-être la plus voyante, mais pas forcément celle qui a de meilleure qualité en tout cas.
Et ça se dit assez souvent que les sélections parallèles sont plutôt celles qui doivent réclamer l'attention, parce que voilà, la sélection officielle, c'est un peu voilà, installé, c'est un peu toujours les mêmes vieux dinosaures qu'on voit chaque année.
Et dans les présidents du jury aussi. Hein.
Oui, même si c'est la première fois pour Burton, qui avait jamais été sélectionné à Cannes, si je ne me trompe pas, et qui se retrouve catapulté président du jury cette année.
On passe aux événements, parce qu'on est un peu à la bourre. Enfin, sauf si tu les as pas préparés, auquel cas...
Aucunement, mais je peux signaler voilà, très vite. Donc, ce soir à 20h, vous avez une projection de Le Fil. Le Fil, un film qui sera suivi d'un débat animé par le collectif contre l'homophobie de Montpellier. C'est ce soir au Diagonal à 20h. D'autres événements, lundi 17, vous pourrez aller assister à une séance des Chaussons Rouges, donc le film dont j'avais parlé la semaine dernière. Séance à 17h45 qui sera présentée par Guillaume Boulanger, enseignant-chercheur à Paul Valéry. Et puis en sortant des Chaussons Rouges, vous pourrez enchaîner avec les courts-métrages Mille et Une Nuits dans le cadre du festival Arabesque. C'est toujours au Diagonal à 20h20. Et enfin, mardi 18, donc vous aurez la première premier événement au Diagonal dans le cadre de la Battle of the Year 2010. Comme chaque année, il y a des petits films qui sont projetés au Diago pendant la Battle of the Year. Là, c'est J'habite à la Paillade qui accueille Bouga et Les Barons. C'est mardi 18, donc à 20h, c'est au Diago. Et pour les autres cinémas, je ne pourrais pas vous en parler. Je n'ai pas le programme sous les yeux, mais vous trouverez les infos sur Internet sans problème. Ou dans la presse locale.
Et bien voilà, ainsi s'achève Cinérama du 12 mai. C'était fort éprouvant, surtout pour toi, Martin. Hein. Je pense que t'as jamais vécu pire émission.
J'ai vu le moment où il allait falloir combler pendant un bon quart d'heure à la place de l'interview. Mais heureusement, voilà.
Mais t'avais ton dossier de presse.
J'avais mon dossier de presse que j'aurais pu lire.
Bah, oui.
Non, ces deux personnes là qui ont réalisé It Wonderland sont vraiment très sympathiques. J'avais pu les rencontrer jeudi, mais les sons que j'avais pris, c'était autour d'un pastis de saucisson, etc. Donc c'était pas très audible. C'était pas beaucoup plus audible aujourd'hui, mais bon, on a quand même eu des réponses à quelques questions.
Alors, à la fin du générique qui va arriver dans quelques instants, ce sera Godard pour fêter la sortie de son dernier long métrage. Un extrait de Sauf qui peut la vie, un tout court extrait de Sauf qui peut la vie avec Isabelle Huppert. Et sinon, eh bien, au Cinérama, on se retrouve la semaine prochaine, même heure.
À la semaine prochaine.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde.
Cinérama.
Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner, vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. Alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12, sans rancune.